Tous.
Vous allez bien? Que Dieu vous bénisse, c'est bien, moi aussi. On est content d'être encore autour de la parole de Dieu. Je viens d'avoir Nicolas par SMS. Il me dit de bien prier pour eux encore parce que ça a tiré toute la nuit encore, là-bas, dans les rues Ouagadougou. Et priez pour que la paix vienne, en tout cas que les enfants de Dieu soient protégés. Amen. Amen. Gloire à Dieu. On va lire ce matin 2 Corinthiens 5, 16. Je remercie notre frère Alain d'avoir prié pour notre frère Billy Graham qui a été hospitalisé. Vous savez qu'il a 92 ans et il était hospitalisé pour un problème de pneumonie. Et c'est bien de prier pour lui. Amen. Au nom de Dieu fidèle. 2 Corinthiens 5, 16. Désormais, nous ne connaissons plus personne de la manière humaine. Si nous avons connu le Christ à la manière humaine, maintenant nous ne le connaissons plus ainsi. Amen. Ce mois de mai est placé au sanctuary sous deux mots que nous étudions et que nous cherchons à intégrer davantage dans notre vie, parce que quand on sait ce qu'une chose signifie, alors évidemment on peut plus facilement l'intégrer dans notre vie. Si on ne sait pas ce que ça veut dire, on a un peu des problèmes, hein. Et les deux mots de ce mois que nous avons choisi au début de l'année, ces deux mots sont gentillesse et amitié. Savez-vous que le mot gentillesse ne se trouve pas dans la Bible? Pas le mot gentillesse du tout. Pas plus que Trinité. Alors... Ah, je ne pouvais pas la rater, celle-là. Enfin, si le mot Trinité est un mot qui cherche à désigner le Père, le Fils et le Saint-Esprit, bon, voilà. Mais quand c'est avec une mauvaise base, une base de compréhension au sujet de la personne de Dieu, là, c'est un problème. Le mot gentillesse, il est mal compris en général dans le monde et même dans le milieu chrétien. Il est mal compris parce que, en fait, il y a plusieurs significations au mot gentillesse. Tout d'abord, quelqu'un qui a de la gentillesse, c'est une personne qui plaît par sa délicatesse, par son charme. C'est une personne qui est agréable. Et si une personne gentille a quelque chose à dire, alors elle va le dire, mais pas de façon brutale. Elle va toujours faire attention de ne pas gêner la personne, de faire attention que ça ne soit pas en public, en présence des autres. Elle va choisir des mots justes, elle va mettre une intonation dans sa voix de façon à ce que ça passe mieux. Elle va, en fait, on va dire, elle va mettre des gants, quoi. Hein, quelqu'un de gentil met des gants. Ça, c'est un exemple d'acte de gentillesse. Quelqu'un de gentil ne va pas être indiscret. Il ne va pas parler à tort, à travers, sur des sujets délicats, en présence de personnes qui sont mal affermies ou qui ne sont pas concernées par cette sorte de choses et puis qui peuvent être troublées. Quelqu'un de prévenant, quelqu'un de bienveillant, quelqu'un de gentil. Hein. Maintenant, une personne gentille, ce n'est pas une personne toute lisse non plus. Une personne gentille ne va pas éviter de dire des choses sous prétexte que ces choses-là pourraient fâcher. Non, c'est une personne qui, comme je vous l'ai dit, met des gants pour dire les choses, mais c'est une personne sur laquelle on peut compter parce qu'elle est bienveillante. La difficulté avec la gentillesse, c'est que les gens, parfois, même dans les milieux chrétiens, confondent la gentillesse avec la niaiserie et la bêtise. Ils pensent qu'une personne gentille, c'est une personne niaise et bête. Moi, je connais un musulman très gentil. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cet homme, il était venu et il va revenir, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, c'est Akli Chabeni. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Il est gentil, cet homme. C'est un homme gentil. Eh bien, ça ne l'a pas empêché d'être président mondial des juges de la fédération. Vous comprenez ? Il n'est pas arrivé en jouant des coups, en étant méchant. Non, gentil. Un homme gentil. Bon, pour moi, c'est... Ben, il n'est pas chrétien, hein, si vous voulez. C'est un musulman, mais ça veut pas... Il est gentil. Ça, c'est admirable. Je trouve que c'est très bien. Être bienveillant, ce n'est pas être bébête. Akli n'est pas bébête. Hein. Dans ce monde de brut, la gentillesse, c'est assez mal vu. On dira d'une personne qui est naïve, qui est bébête. On dira, ouh, oui, elle est gentille. Vous voyez, c'est un mot qui, gentil, quand on dit de quelqu'un qu'il est gentil, c'est toujours un peu pour se moquer. Une personne gentille, c'est une personne dont on ne fait pas beaucoup de cas. Alors on va dire, oh oui, elle est gentille sans plus. c'est ça. Hein? Bon. Et puis, on dira, par contre, d'une somme d'argent importante, on dira, ah, c'est une gentille somme. Vous voyez, c'est bizarre. C'est bizarre. Quand on regarde le dictionnaire avec la signification des mots, c'est très bizarre. Jésus était-il gentil quand il était dans sa condition mortelle, quand il était sur la terre? Oui, parce que il agissait toujours à propos et pour construire, même quand il était sévère. Quand il était sévère, il n'était pas méchant, parce que le contraire de la gentillesse, c'est la méchanceté. Et le mot méchant, ça vient d'un vieux mot français. Vous allez me dire, mais alors on est où ce matin? On est un culte? Oui, oui, vous êtes un culte où on veut chercher à adorer Dieu. Et pour pouvoir adorer Dieu, eh bien, Dieu est la parole. Et si on ne connaît pas les mots qu'on emploie, on ne peut pas adorer Dieu parce qu'on ne connaît pas les mots et ne sachant pas ce que ça veut dire, on ne sait pas quoi faire. On ne fait pas les choses d'instinct, on fait les choses selon la parole de Dieu. Et Dieu a employé des mots, les paroles, mais il n'a pas employé le mot gentillesse. Alors, comme la gentillesse, c'est quand même quelque chose d'important parce que Jésus était gentil, il faut voir qu'est-ce que c'est la gentillesse selon Dieu. Le mot méchant. Le mot méchant, ça vient d'un vieux mot français qui signifie méchoir. Enfin, méchoir. C'était le mot méchoir qui signifie mal tombé. Puis ça a donné méchant. Comment c'est possible qu'on en est arrivé là? Eh bien, Jésus, par exemple, ne faisait jamais tomber ses phrases mal. Elles ne tombaient pas mal. Vous voyez, quand tout à l'heure je vous parlais, quelqu'un qui est gentil ne va pas dire des choses à tort à travers devant n'importe qui, au risque même de fâcher les gens qui sont là parce qu'ils ne sont pas au courant ou parce qu'ils ne sont pas concernés ou parce qu'ils sont mal affermis. Vous voyez? Ces phrases, elles pouvaient être sévères, mais il n'y avait pas de méchanceté dedans. Elles ne tombaient pas mal. Ces mots tombaient bien là où il fallait, quand il fallait, pour la gloire de Dieu, pour aider les gens, pour les reprendre avec fermeté, mais toujours avec une bonne intention. Dans le mot gentillesse, alors on peut lui, bien sûr, on peut lui faire des procès d'intention en disant oui, il n'était pas tellement gentil dans le temple avec le fouet. Hein. Bon, on peut lui faire un procès d'intention. Moi, je dis que c'était très gentil d'avoir fait ce qu'il a fait. Et ce geste très gentil, certains prophètes feraient bien faire attention, parce que le gentil Jésus pourrait aussi bien prendre un fouet gentiment et vous en mettre plein les dents gentiment. Gentil. Dans le mot gentillesse, on retrouve la même racine que dans le mot généreux. Vous rappelez le mot généreux? Qui c'est qui se rappelle la base du mot généreux? De bonne race. De bonne race. Hein, je ne vais pas vous m'étendre trop longtemps là-dessus, mais il y a G-E-N-T, donc c'est là. Voilà, on va passer là-dessus. Le mot gentil, donc ça vient du mot qui signifie de bonne race, de race en fait. Alors, une personne généreuse peut-elle être méchante? Non. Quand on connaît ce que c'est qu'être généreux, mais quand on ne sait pas ce que c'est être généreux, si on pense que quelqu'un de généreux, c'est quelqu'un qui donne beaucoup d'argent à toutes sortes d'associations caritatives, qui donne, on lui demande, il donne, il voit même des besoins, alors il donne, on dira, ah, il est généreux. Pas forcément, pas forcément. On peut être généreux et méchant, pas généreux, on peut donner beaucoup et être méchant et ne pas être généreux. Parce que quelle est l'intention qui se cache derrière ces dons qui sont là sans cesse? Qu'est-ce que c'est? Il peut se cacher un mauvais désir d'humilier la personne à qui on donne. Vous voyez? Ça, c'est, il faut faire attention, le mot généreux, on ne doit pas le mettre sur tout le monde, sur tous ceux qu'on pense être généreux. Non, ce n'est pas parce qu'ils donnent qu'ils sont généreux. Généreux, ça veut dire de bonne race, noble. Alors, gentillesse et généreux, c'est de bonne race. Alors évidemment, on a tous un passé, vous qui m'écoutez ici au Sanctuary, vous qui écoutez sur Internet, vous qui regardez le film à la télévision, on a tous une éducation plus ou moins correcte. Et quand on devient chrétien, on se trouve habité par l'Esprit de Jésus-Christ, alors on pense qu'on peut agir, n'est-ce pas, en toute franchise, avec vérité, et... pas toujours. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être vrai, je ne dis pas qu'il ne faut pas être franc, mais il faut être gentil. Parce que pour que l'Esprit de Jésus-Christ qui habite en nous puisse se manifester, il faut connaître qui il est, et ça vient par l'enseignement, ça ne vient pas par l'expérience. Ça vient par l'enseignement de savoir qui est Jésus-Christ. On connaît quelqu'un à force de vivre avec lui à force de savoir ce qu'il concerne. Et le meilleur moyen pour savoir ce qui concerne Jésus, c'est d'étudier ce qui est écrit dans les Saintes Écritures. Certaines personnes nées de nouveau ont un enseignement basé sur la Bible qui les conduit à avoir un comportement méchant. Comment ça se peut-il? Eh bien, c'est simple. Tout d'abord, si l'enseignement qu'ils ont reçu est centré sur le côté légaliste des Écritures. Je dis bien centré, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi dans les Écritures. Mais quand tout est centré, quand c'est le centre, quand ce n'est pas l'amour le centre, quand ce n'est pas la compassion, quand c'est pas... Alors, c'est la loi, alors évidemment, ça risque de mal tomber, vous voyez, sur les auditeurs. Et quand ça tombe mal sur les auditeurs, après, ils reproduisent ça dans leur vie, en toute sincérité, mais ça devient des gens méchants. C'est comme ça. Tout va passer au crible de la loi, et il va y avoir des relations très négatives, sous couvert de « moi, je suis franc, je dis toujours ce que je pense, et la parole de Dieu dit, et comme ci, et comme ça. » Voilà, c'est terrible. Ce n'est pas que la loi n'existe pas, mais l'amour, nous dit la Bible, l'amour couvre une multitude de péchés, et voilà, avec gentillesse, avec fermeté, mais avec gentillesse. Ok. L'enseignement doit donc être équilibré. Je lisais encore ce matin un petit mot de frère Osborne sur Facebook, et c'est fantastique. C'est toujours tellement gentil ce qu'il dit. Lui, il est chrétien. Hein, je vous parlais d'Akli, maintenant je vous parle d'un chrétien. Frère Osborne, n'est pas n'importe lesquels. Il est toujours, c'est toujours gentil. On pourrait dire qu'il est tellement gentil qu'il en oublie que les gens sont des pécheurs, que les gens sont parfois tordus. Et s'ils s'approprient tout ce qu'il dit, ils vont s'illusionner. Non. C'est très gentil, mais si vous regardez bien les mots qu'il emploie, c'est très clair. C'est très clair. C'est toujours... la personne qui veut regarder ça avec honnêteté, si vraiment c'est un chrétien, il se rend compte que oui, c'est vrai, Dieu est bon, oui, c'est vrai, Dieu veut le meilleur pour vous, oui, c'est vrai, Dieu n'est pas derrière vous pour vous punir, oui, c'est vrai. Mais évidemment, si vous marchez bien avec l'Éternel. Amen. Donc, c'est, la façon est gentille de dire les choses qui sont quand même toujours empreintes d'une certaine sévérité, d'une certaine autorité de la loi. De la loi. Ça ne veut pas dire que frère Osborne va faire comme d'autres, criant l'enfer et ceci. Et ceci. Non, jamais. Lui, jamais. Alors, l'enseignement doit être équilibré. Il doit toujours être clair que dans notre dispensation de la grâce, parce que nous sommes dans la dispensation de la grâce, l'enseignement qui concerne le salut et notre comportement, eh bien, il commence à la première page, au premier chapitre, au premier mot du livre des Actes des Apôtres, pas de Matthieu. Parce que Jésus, lui, il vivait et il s'adressait à des gens qui étaient sous la loi. Il était à ce moment-là un trait d'union entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Mais tout ce qu'il dit dans le Nouveau Testament ne nous concerne pas, nous autres, chrétiens, gens des nations en particulier, nous qui vivons dans la nouvelle alliance. Jésus, dans sa condition mortelle, n'est pas celui que nous connaissons. On vient de le lire. Ce n'est pas seulement qu'il n'a plus de corps, il a un corps. On ne sait pas qu'il n'est pas seulement, il n'a plus de corps comme le nôtre. Ce n'est pas ça. C'est le message qui est différent. C'est la dispensation dans laquelle il nous a fait entrer qui est différente. Lui, il ne change pas. Vous voyez ? Les apôtres, Pierre, Jean, tout ça, ils ont connu Jésus selon la chair. Maintenant, l'apôtre Paul dit, nous ne le connaissons plus de cette manière-là. On ne le connaît plus de cette manière-là. Paul, en particulier, il a eu la révélation de comment vivre dans cette nouvelle alliance. Ce qui fait dire à des gens, voilà, l'apôtre Paul a inventé le christianisme parce que c'est très différent de ce que Jésus dit. Ils n'ont pas tort de dire que ce que Paul dit est très différent de ce que Jésus dit. Mais ils n'ont tort ni l'un ni l'autre. Simplement, c'est une autre dispensation. Il faut le savoir. Quand on le sait, on ne voit plus de contradiction. On voit une continuité. Amen. Jésus, il avait commencé de faire et d'enseigner, étant dans sa condition mortelle, et à partir du livre des Actes, il continue d'enseigner et à faire, on trouve ça dans Actes chapitre 1, verset 1 ou 2, je ne sais pas, je ne m'en rappelle plus, et son passage sur terre dans la condition mortelle, elle était un trait d'union entre ces deux alliances, celle de la loi et celle de la grâce. Et ce qui frappait son auditoire, c'était sa gentillesse, parce que selon la loi, il n'avait pas le droit de toucher des lépreux. Ben, il y touchait. Selon la loi, il n'avait pas le droit d'aller chez des prostituées, des publicains, je vais dire des républicains, ça m'a... des publicains. Et, selon la loi, il n'avait pas le droit d'empêcher cette lapidation de cette femme qui avait été prise en flagrant délit, toute seule, en flagrant délit d'adultère. Hein? Selon la loi. Il était le trait d'union, vous voyez. Et c'était cette gentillesse, cette bonté, c'était magnifique. Cette non-dureté. Tout cela, les religieux de l'ancienne alliance ne faisaient pas. Ils regardaient les pécheurs. Quand vous voyez un pécheur, détournez-vous de lui. C'est écrit dans la loi. Et ce qu'ils disaient, c'était confirmé par des miracles. Cela montrait que Dieu était vraiment de son côté, était vraiment avec lui. Et ce dont personne ne pouvait se vanter. Hein. Ils avaient le livre, ils avaient leur interprétation du livre, ils avaient leur façon de faire qui était très stricte. Et on ne pouvait rien critiquer parce qu'en fait, c'était écrit. Mais c'était, maintenant Jésus ouvrait une autre porte. Dieu étant avec lui, il n'en profitait pas pour faire comme Dieu faisait du temps de Moïse, c'est-à-dire tu marches pas clair, ben t'as va, tu vois, hein. Hop, la terre s'ouvre, tu tombes dedans. C'était plus ça. Pourtant, c'est le même Dieu, mais c'est une autre dispensation. Nous sommes dans la grâce. La grâce. Moi, je trouve que la grâce, la gentillesse, la douceur, l'humilité, la bonté, tout ça, ça va ensemble. C'est pas que Dieu n'était pas comme ça, mais il avait des raisons d'agir autrement dans l'ancienne alliance. Jésus était gentil, il manifestait de la gentillesse, de la douceur, de l'humilité, mais ça n'avait rien de niais, ça n'était jamais de la faiblesse. Il était ferme et il ne s'illusionnait pas au sujet des gens qu'il rencontrait, et d'ailleurs, il ne leur donnait pas son amitié. Il ne donnait pas son amitié à tous. Il y avait beaucoup de gens qui aimaient Jésus, beaucoup de gens l'aimaient. Et il les aimait aussi, mais pas au point de leur donner son amitié. Non. Vous voyez, aujourd'hui, on étudie gentillesse et amitié. Ah. L'amitié, mes frères et sœurs, c'est ce qui a le plus de valeur sur l'échelle des valeurs concernant l'amour. Il n'a donné son amitié qu'à 11 personnes. À la fin, tout au bout, tout à la fin. Il n'a pas donné tout de suite, hein. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne les aimait pas avant, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres. Il avait de la gentillesse, il avait de l'amour pour tous, il avait du respect, tous ces mots qu'on a étudiés, hein, les mois passés. Il connaissait bien leur cœur, il les aimait, il ne leur faisait pas de mal, il aurait pu, hein. Il aurait pu, c'était facile pour lui, hein, d'ouvrir la terre, de les faire mourir. Il meurt, hein. Il est Dieu, il peut tout. Il ne leur voulait aucun mal, il ne leur faisait que du bien, il priait même pour eux. Mais l'amitié, ça, il ne leur a pas donné. Il a donné qu'à 11, à 11 personnes. Alors, en tant que disciple de Jésus-Christ, étant donné que la Bible nous dit que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde, on doit prendre la mesure là. Comment Jésus aimait? Quelle était sa manière? Prenez la mesure de cet enseignement et posez-vous la question, j'ai combien d'amis Facebook? Ce ne sont pas vos amis. Ce ne sont pas vos amis, c'est pas vrai, c'est pas des amis. Vos amis méritent mieux qu'une relation Facebook. Vos amis ont droit à vos secrets. Parce qu'ils vous aiment comme vous les aimez, il y a un équilibre, il y a quelque chose de précieux qui s'est construit. Ils sont gentils avec vous, mais ils ne sont pas faibles. Vos amis sont justes, mais ils ne sont pas vexants. Ils sont stables dans le temps, vous avez pu voir qu'ils sont stables dans le temps. Vous ne leur avez pas donné votre amitié au bout de 2 mois. Ils sont stables dans le temps. Vous savez que vos amis, vous pouvez compter sur eux. Que si vous leur demandez quelque chose, eh bien, ils ne vont pas aller se vanter partout de vous avoir aidé. Ils sont discrets dans la gentillesse, il y a la discrétion, le respect, ils sont délicats. Ils ne vont pas mettre les pieds dans le plat, ils ne vont pas être gênants pour vous. Ils sont vos amis les autres, vous les aimez, mais vos amis c'est autre chose. Les autres, vous allez les aimer, Jésus vous dit, même jusqu'à donner votre vie pour eux, mais pas votre amitié. Vous pouvez donner votre vie, mais pas votre amitié. Waouh, Michel, qu'est-ce que tu dis là? Ah. Jésus a donné sa vie pour le monde entier, mais il a donné son amitié qu'à 11 personnes. Vous voyez, quand vous allez voir dans les familles maintenant, vous allez parler de ça avec vos enfants, les jeunes, vous allez parler avec vos parents au sujet de l'amitié. Ah, ça va être. C'est une bonne base pour commencer la discussion, ça. L'amitié. Vous voyez que la gentillesse et l'amitié, ça va ensemble, mais l'amour ne va pas forcément avec l'amitié. Bien sûr que nos amis, on les aime, mais ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Alors, qu'est-ce que vous voulez de Dieu? Son amour, moi je préfère son amitié, mais son amitié, elle se mérite. Ah, je sais, dans les milieux évangéliques, on n'aime pas trop le mot « mérite hein ». Enfin, ça nous fait penser à au catholicisme, qui, on obtient le salut par nos mérites, etc. Non, 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 oui, mais l'amitié, oui, ça se mérite. Ça se mérite. Dieu aime tout le monde. Il nous commande d'aimer tout le monde. Je vous donne un commandement. Aimez-vous les uns les autres. Aimez vos ennemis. C'est un commandement. Alors, ce qui nous trouble beaucoup, c'est cette question, mais comment Dieu fait-il pour aimer tout le monde? Puisque nous aussi, on doit aimer tout le monde et que Dieu est notre modèle. Comment il fait, lui, pour aimer tout le monde? Si c'est un commandement, alors qu'il faut le faire, mais comment? Eh bien, c'est que l'amour, c'est une décision. Si je ne décide pas d'aimer inconditionnellement, je ne peux pas aimer tout le monde. Je ne peux pas. Pour la bonne et simple raison que tout le monde n'est pas aimable. Vous voyez? Je ne peux pas aimer tout le monde. Je ne peux pas aimer les gens qui ne sont pas aimables. À moins que j'obéisse à l'ordre de Jésus qui dit d'aimer tout le monde, même ceux qui ne sont pas aimables. Alors il faut se décider. Il faut faire un pacte avec soi-même, devant Dieu, et demander donc humblement au Seigneur Jésus-Christ de nous aider à nous souvenir de ce pacte dans les moments où on est surpris par quelque chose qui nous pousserait à avoir la rage. Dans des moments où on n'a plus du tout envie d'aimer. Et ces moments, ça arrive souvent. Et Dieu est notre modèle, alors il faut qu'on le regarde. Il faut qu'on regarde comment est-ce qu'il aime. Je lis dans le Proverbe 24, 17. Écoutez bien. Dieu, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle, de peur que l'Éternel ne te voie, que cela lui déplaise et qu'il ne se détourne et qu'il ne détourne de lui sa colère. Dieu, il aime le pécheur et parfois il se met en colère contre le pécheur, mais dans un but, celui de la repentance, et il ne veut pas que quand le pécheur dérouille, ou que quand le chrétien est châtié, l'autre à côté se marre et soit dans la graisse, soit tout content. Même si le méchant meurt, Dieu dit, je ne veux pas que le méchant meure, je veux qu'il se repente. Même si le méchant meurt, ce n'est que pour le bien. Quel bien? J'en sais rien, moi. Mais je peux être sûr d'une chose, c'est que toutes choses concourent ensemble au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais Dieu n'aime pas que nous nous réjouissions que de la mort d'un ennemi. Il ne veut pas. Il n'aime pas ça du tout. Et il va détourner sa colère. Vous pensez qu'il va la mettre sur qui? Car Dieu a choisi d'aimer tout le monde, et même les méchants. Et quand on parle de gentillesse, puisque c'est un des deux mots que nous avons choisi pour l'étude du mois de mai, c'est pas très gentil de se laisser aller à la réjouissance quand on voit un ennemi qui est dans la difficulté, dans la peine ou même qui meurt. La gentillesse, c'est la délicatesse, c'est pas très délicat. Parfois, notre nature mortelle doit être maîtrisée parce que, pour qu'elle se tienne correctement. Et je pensais à toutes ces choses ces derniers temps, en lisant les titres des journaux au sujet de la mort de Ben Laden. J'étais choqué de voir comment les gens se réjouissaient. C'est évident que c'était, peut-être, on n'est même pas sûr, mais que c'était un monstre. Mais le monde a de la peine à se maîtriser. Certaines populations y arrivent mieux que d'autres à se maîtriser. Certains bouillonnent en eux-mêmes, mais ils ont l'éducation qui fait qu'ils arrivent à maîtriser ça en eux-mêmes. Mais ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Ce qu'il veut, c'est que dans nos cœurs, à l'intérieur, ça soit maîtrisé, pas seulement en apparence, mais que dans nos cœurs, ça soit maîtrisé en vue de la gentillesse, de la délicatesse que nous puissions manifester l'Esprit de Christ qui ne se réjouit pas de la mort du pécheur. Mais pour en arriver là, Il faut avoir une intimité amicale avec Jésus-Christ, le roi de la paix, le roi de la délicatesse, le roi de la gentillesse. Et ça, ça peut prendre du temps, ça ne vient pas tout de suite. Moi, quand je suis né de nouveau au départ, j'avais l'esprit de Jésus-Christ en moi, mais jusqu'au moment où il a vraiment pris toutes les commandes, mais c'est encore pas fini, il y a encore du boulot, et ben, il faut du temps. Alors, comment on fait en attendant? Eh bien, il faut compter sur Dieu, il faut aller sur ses genoux, il faut prier. Oui, mais pas seulement, mes frères et sœurs. L'éducation charnelle n'est pas à rejeter. L'éducation charnelle n'est pas à rejeter. Elle est le premier pas volontaire qu'on fait vers la maîtrise de soi par le Saint-Esprit. Mais s'il n'y a pas d'abord cette éducation au départ, sans éducation, c'est difficile d'avoir de pouvoir manifester de la délicatesse, même chez des gens consacrés à Dieu. Nos parents ont eu la charge de nous donner l'éducation. Vous, maintenant, en tant que parent, vous avez la charge de donner l'éducation à vos enfants. Celui qui ne prend pas du temps pour donner ça à ses enfants, c'est un dénaturé. Parce que toute la nature nous montre que la culture, qu'elle a besoin de culture, c'est-à-dire qu'elle a besoin de soins, qu'elle a besoin d'attention, qu'elle doit être corrigée, qu'elle doit être... Et même, à certains arbres, on leur met un tuteur. Sans cela, la nature, c'est une jungle. C'est du fouillis. Et c'est pourquoi Dieu nous conduit à étudier ces choses. Je parle au sujet de l'éducation. Et depuis le début de l'année, alors on a étudié au sanctuary, et j'espère que chez vous aussi vous avez fait, vous qui écoutez Internet. Et puis ensuite, après l'avoir étudié ici à la chapelle, chaque famille l'a étudié en privé, avec les enfants et les parents réunis. On a étudié la loyauté, la fiabilité, le respect, l'amour, la générosité, la sensibilité. Et aujourd'hui, on en est à... La gentillesse et l'amitié. Ce mois-ci, la gentillesse et l'amitié. L'étude, comme je vous enseignais dernièrement, c'est le terrain sur lequel on construit notre vie. Quand on enseigne ça à nos enfants, on leur donne un terrain. C'est la terre, c'est charnel si vous voulez, mais c'est quand même, on en a besoin. On n'est pas que des esprits. Dieu ne fait que des miracles que quand on ne peut rien faire d'autre. J'écoutais l'autre jour un serviteur de Dieu qui disait à la télévision, il était un peu terrible, il était un peu cru. Il disait, mais moi, je ne prie pas pour quelqu'un qui a un petit bobo. Il n'a qu'à aller chez le médecin, puis c'est bon. Moi, je prie pour quand les médecins ont dit, on ne peut plus rien faire. Mais ce n'est pas complètement faux. Ça ne veut pas dire qu'on ne prie pas pour quelqu'un qui souffre du dos, des choses comme ça. Bien sûr, on prie toujours. Quand quelqu'un souffre, on n'aime pas, alors on prie. Donc, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai qu'on ne doit pas seulement compter sur Dieu pour tout. Nous devons donner l'éducation à nos enfants. C'est nécessaire. C'est un terrain nécessaire. Ensuite, chacun devra, tout seul, après avoir étudié, s'élancer vers son propre ciel, sa propre vie, sa propre compréhension des choses. Après avoir étudié, après avoir compris, en étant sûr d'avoir bien compris, c'est-à-dire en comparant la compréhension qu'il a reçue avec celle des autres pour pouvoir être bien certain, oui, c'est bien ça qui a été enseigné. On ne joue pas avec ces choses, c'est très important. En face de ce monde dur, en face de ce monde trompeur, souvent très faux, nous ne pouvons pas aller vivre notre vie de tous les jours sans éducation. Et on ne peut pas laisser nos enfants aller comme ça en disant « Oh ben le Seigneur... » Non, 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 c'est de la malhonnêteté. Et puis on ne peut pas non plus se demander à soi-même, par exemple, qu'est-ce que c'est le respect? Je me demande qu'est-ce que c'est le respect. Mais si vous vous demandez à vous-même, comment pensez-vous avoir la solution en vous-même, puisque vous en êtes à vous poser la question? Il faut aller voir là où il y a la solution. Il faut aller voir là où il y a l'instruction. On ne se demande pas à soi-même, je me demande. Mais on ne se demande rien du tout, on demande aux autres. Et c'est là qu'on a la réponse. On étudie ça, on écoute l'enseignement du Créateur, on écoute l'enseignement de Dieu, on écoute l'enseignement de la parole de Dieu, on écoute les prédications, on en parle à la maison, tout ça, ça fait un tout. On en parle en famille, et puis on peut avoir alors une juste compréhension. Parce que ce n'est pas parce que j'ai dit une chose ici que c'est forcément compris. Ah là là, mon Dieu, pas du tout. Mais pas du tout. Alain me disait il y a encore quelques mois en arrière, il dit, tu dois être très déçu de nous des fois. Je dis, oui, mais pas, c'est normal. Ce n'est pas parce qu'on enseigne les choses que c'est compris, puis que ça va être intégré, puis que ça va être vécu. C'est normal. Mais des fois, c'est vrai que c'est décourageant, mais c'est normal, c'est comme ça que ce que vous voulez faire. Alors, c'est pourquoi il ne faut pas que ça reste simplement une prédication. Ah oui, c'était bien aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as pensé? C'était bien. Hein, combien de fois on entend ça à la sortie du culte? Non, non, réunissez-vous et puis parlez, prenez des notes pendant la réunion et puis parlez ensuite et étudiez ces choses, regardez dans la Bible, ayez une concordance biblique pour pouvoir retrouver les versets qui parlent de la même chose, achetez-vous un dictionnaire pour étudier les mots qui ont été employés. C'est important. Dieu est la parole. Si on n'étudie pas par rapport à la parole, c'est-à-dire le sens des mots, comment voulez-vous pouvoir étudier? Ce n'est pas possible. Ce n'est pas, une question de vue de l'esprit ou de révélation. Ou de machin. Non, non, non. On est dans la matière, mes frères et sœurs. Sinon, on risque de se tromper soi-même. C'est ça le problème. Alors, qu'avez-vous appris aujourd'hui au sujet de la gentillesse? Qu'est-ce que vous avez appris sur le rapport amour-gentillesse? Qu'est-ce que vous avez appris sur la différence entre l'amour et l'amitié? Ça, ça donne une échelle des valeurs. On n'arrête pas de dire, oh, il n'y a plus de valeurs. Ben oui, ben alors voilà, ben on va y travailler pour qu'il y ait des valeurs dans notre société, au moins, au moins chez les chrétiens. Quelle est la valeur de l'amitié? Trouvez-vous que vous pouvez la donner à quelqu'un qui n'aime pas Jésus? Votre amitié. Yeah. Non, on ne peut pas. Et je vais vous dire pourquoi on ne peut pas. Moi, je ne peux pas donner mon amitié à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus parce que je n'ai pas les moyens. Je vais être trahi, je vais être désillusionné, je vais être bouleversé, je vais être malade si je fais ça. Et ça sera bien fait pour moi, je n'aurais pas été prudent. Vous comprenez? On ne peut pas, on n'a pas les moyens, parce que la vraie amitié, c'est une trop grande valeur pour être donnée à des gens qui ne savent pas l'apprécier. Par contre, vous pouvez les aimer, les gens, jusqu'à donner votre vie pour eux. Il y en a qui disent, jusqu'à donner votre chemise pour eux. Oui, mais on peut faire encore plus, hein. Jésus veut qu'on donne notre vie pour nos amis. Ah oui, pour nos amis. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Ah, ah. Réfléchissez à tout ça. Les amis, c'est aimer les gens, c'est autre chose que d'avoir de l'amitié pour eux. C'est autre chose que d'avoir... Et puis l'amour. C'est autre chose que d'avoir un cœur qui bat pour une personne. Moi, je me rappelle, j'avais lu dans Salut les copains. J'avais 13 ans. Et j'avais lu dans Salut des copains que Johnny Hallyday avait dit « Moi, quand je vois Sylvie qui arrive, ça me fait l'âme, boum, dans le plexus solaire. Vraiment, ça, c'est la preuve que je l'aime. Ça me fait une douleur. » J'ai dit « Ah bon, l'amour, c'est une douleur. » Je dis « Ah ben alors, qu'est-ce que c'est que tomber amoureux, qu'est-ce que ça va être ?» Puis en effet, c'est vrai que quand on aime quelqu'un, ça nous fait « boum » chaque fois qu'on le voit ou qu'on la voit. Non, ça ne vous fait pas ça? Bien sûr, au début, voilà. Mais c'est autre chose que d'avoir son cœur qui bat ou le plexus solaire qui est choqué ou les machins comme ça. L'amour, c'est un don que vous allez et que vous devez offrir à tout le monde. Mais alors, vous me direz, l'amour des amoureux, c'est quoi? Eh bien, est-ce que c'est un choix aussi, l'amour des amoureux? Ben non, c'est justement ce truc qui vous arrive, qui est bizarre, qui est spécial. C'est quelque chose de précieux et qui a un but. Vous allez me dire, mais quel but ça, l'amour des amoureux? Oh, je vais vous décevoir. Je vais vous décevoir. L'amour des amoureux, au départ, comme Dieu l'a créé, il a mis ça en nous pour un immense but, celui de permettre à des esprits de pouvoir venir s'incarner sur la terre au travers d'un homme et d'une femme. Voilà à quoi ça sert l'amour des amoureux. Je sais qu'il y en a plein qui ne vont pas être d'accord. Mais c'est égal. C'est le grand but que nous appelons l'amour, celui des amoureux. Quelque chose arrive à ces personnes qui n'arrivent pas à des amis. Quelque chose arrive à ces personnes qui n'arrivent pas entre ennemis. C'est un autre amour. Par exemple, moi j'aime mes ennemis, mais ce n'est pas le même amour que j'ai pour ma femme. Ce n'est pas pareil. C'est un autre amour. Mais cet amour pour l'amoureux, je vais dire ça comme ça, l'amour des amoureux, c'est un amour qui doit aussi être en ordre, il doit y avoir de l'ordre dedans. Dieu sait qu'il doit y avoir de l'ordre, c'est pourquoi il dit expressément qu'on doit être fidèle. Parce que ce n'est pas gagné d'avance. Ah Ah bon, pourquoi c'est pas gagné d'avance? Je l'aime, je l'aimerai toute ma vie. Pour que cette sorte d'amour puisse fonctionner, il faut que ça soit en ordre avec Dieu, parce que, en fait, ce que Dieu veut, c'est, avec cette sorte d'amour-là, cet amour des amoureux, c'est construire l'humanité d'une façon pratique. Mais si ce n'est pas construit selon Dieu, waouh ! De nos jours, on mélange beaucoup l'amour et les sentiments et tout. Bien sûr qu'il doit y avoir des sentiments dans l'amour des amoureux, c'est sûr, s'il n'y a pas, c'est grave. Enfin, disons que c'est gênant. Autrefois, on fabriquait les mariages dans les familles, puis il y avait des sentiments qui naissaient après. Ça pouvait arriver, mais voilà, c'est dur aussi. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, les sentiments, ça ne doit pas être au premier plan. Ça doit exister, mais ça ne doit pas être au premier plan. Il doit y avoir une étude, c'est-à-dire une réflexion sérieuse, selon les Écritures, à ce sujet-là. Parce que viendra un temps où les sentiments vont changer, où l'attirance ne sera plus aussi forte. Vous n'y croyez pas. Jeunesse, jeunesse. Cet amour, s'il n'est pas devenu une amitié, cet amour des amoureux, s'il n'est pas devenu une amitié, il va s'écrouler. Je n'ai même pas besoin d'être prophète pour le dire. C'est normal, c'est juste, c'est comme ça. Vous savez, cet amour des amoureux, c'est quelque chose de très étrange. Souvent, alors là encore, je vais faire sauter en l'air certains, mais tant pis, je le dis. Souvent, quand l'instinct de reproduction de l'espèce est accompli, l'amour, cette sorte d'amour, s'effrite. C'est pourquoi il faut cultiver l'amitié avec la personne qu'on aime d'amour amoureux. Vous voyez ce que je veux dire? Et l'amitié, c'est ce que Jésus donnait à de rares personnes. À des gens qui avaient réellement un seul cœur avec lui. Alors, vous êtes intelligent, vous pouvez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Je vais terminer ce matin en priant que chacun d'entre vous, vous appreniez de Jésus ce que c'est que la gentillesse, ce que c'est que l'amour pour tout le monde, ce que c'est que l'amitié, ce que c'est que l'amour amoureux. Et si vous apprenez de lui, vraiment de lui, eh bien vous comprendrez comment vivre pour être heureux et rendre les autres heureux et glorifier le Seigneur au travers de votre vie. Que Dieu vous garde, Dieu vous aide, et que ce message soit quelque chose qui soit une base pour vous qui êtes jeunes. Amen. Merci Seigneur Jésus de bénir ces choses que j'ai dites et de permettre que mes frères et sœurs et tous ceux qui entendent cela puissent réaliser, oui c'est vrai, il faut que j'étudie sérieusement d'après la parole de Dieu, c'est vrai. C'est pas parce qu'il y a un sentiment ou il faut quand même que ça soit très sérieux, selon les Écritures. Je te remercie mon Dieu, parce que tu es celui qui nous avertit, qui nous dirige, qui nous conduit et qui permet que nous puissions vraiment établir sur le roc. Je te remercie Seigneur Jésus pour tout ce que tu nous dis ce matin, et je te prie qu'en cette fin des temps, nous puissions, chacun d'entre nous, être vraiment sérieux avec ta parole, pour que quand tu reviens, eh bien, nous soyons tous prêts devant toi, et que ton nom soit glorifié. Merci Seigneur Jésus. Amen.